Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Claes.
Et à la réalisation, Luc-Jean Reynaud. Ceux qui opposent de l'extérieur face à face littérature et philosophie oublient que la même angoisse les confond et qu'entre une narration dont la célérité donne à penser et une réflexion dont la grâce donne à jouir, la frontière est infiniment floue et constamment mobile. Les lettres à un jeune poète qu'un bon hasard valut à Rilke d'écrire entre février 1903 et décembre 1908 sont à cet égard un monument de philosophie. Et c'est de cette manière d'ailleurs, sans tirer le poète par les cheveux, que nous les lirons aujourd'hui, en cheminant d'un conseil à l'autre, d'un avis à l'autre, en repérant l'intransigeance derrière les recommandations et la métaphysique, mais oui, sous l'éloge de la solitude.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Cher monsieur,
votre lettre m'est parvenue il y a quelques jours seulement. Je vous remercie pour la grande et aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne puis guère davantage. Je ne peux pas aborder la manière de vos vers. Toute intention critique est trop éloignée de moi. Rien ne permet aussi peu de toucher à une œuvre d'art que les mots de la critique. On aboutit presque toujours par là à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas tout aussi saisissables, aussi dissibles qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Et, plus indicibles que tout, sont les œuvres d'art. Existences mystérieuses dont la vie, à côté de la nôtre qui passe, est durable.
Le souvenir qui m'est resté vraiment de ma première lecture de Rilke, parce que j'ai lu Les lettres à un jeune poète plusieurs fois, et la première fois, je pense que c'était très tôt, vers 14 ans, et ce qui m'avait le plus marqué, c'était la cordialité, la voix chaleureuse de Rilke.
Oui, vous avez raison. Plus que la cordialité, oui, cordialité, ça va, oui. La civilité. La politesse, l'extrême courtoisie, la cordiale politesse, chaleur et distance. Vous savez, c'est un peu comme le hug américain. Vous avez remarqué le hug américain, quand les Américains s'étreignent civilement, dans la rue, ils se font des hugs. Et le hug ressemble, c'est le Canada Dry de l'étreinte amicale. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un dans les bras. Mais en fait, on a une façon de lui prendre dans les bras qui le maintient à distance. C'est un art très subtil de témoigner sa sollicitude à quelqu'un tout en le maintenant à distance. On est pleinement dans un hug, ici, entre Rilke et le jeune Capus, qui lui envoie ses textes, ses vers. Grande civilité. La politesse de Rilke, d'ailleurs, est une manière d'honorer, bien sûr, la confiance qu'on lui fait, mais également de maintenir à distance, celui à qui il s'adresse. Et d'ailleurs, le texte lui-même porte maintes fois sur la solitude de l'artiste, sur la distance qu'il doit instaurer entre lui et les autres. C'est comme un effet de l'infinie solitude qu'il réclame en qualité d'artiste à l'intérieur même de ce texte. Et puis, ça rappelle, vous savez, on en a peut-être parlé déjà ici, la métaphore des porcs-épics.
Oui, de Schopenhauer.
Vous vous souvenez que les porcs épics en hiver ont froid et donc se rapprochent, mais du coup se piquent et donc s'éloignent, et donc ont froid et donc se rapprochent et se piquent et s'éloignent, etc. Bref, qu'ils vivent en accordéon. Et qu'au fond, nous en sommes tous là, dans la mesure où le besoin de sollicitude nous rapproche des autres, mais immédiatement les odeurs de l'autre, les opinions politiques de l'autre, etc., nous en éloignent aussitôt, de sorte que nous vivons en accordéon les uns avec les autres. Et la seule solution à cette alternative terrible que décrit Schopenhauer, c'est la politesse. C'est la politesse. Et il cite l'anglais, il dit « keep your distance ». C'est l'art de garder ses distances. Non pas d'instaurer d'ailleurs une distance absolue, mais de maintenir la distance. Or, je trouve que cette métaphore est parfaitement adaptée à la correspondance de ces deux solitudes.
Et je reprends votre mot de distance, Raphaël, parce qu'il est question aussi de distance dans le sujet de la lettre, puisque c'est la distance entre les mots du critique et l'œuvre d'art.
Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas la même distance. Parce que la distance que réclame le poète, c'est une solitude infinie, c'est une solitude agrandie, justement, par le fait que c'est en lui-même que le poète trouve la quintessence des choses qu'il a à dire, des choses, la simplicité suprême qu'il doit faire valoir dans son texte et traduire en mots, en métaphores, dans une activité poétique. La distance du critique, c'est l'abîme qui sépare l'avorton du génie, si vous voulez. C'est autre chose. C'est l'abîme, pour le coup, infranchissable, à jamais infranchissable, qui sépare le fielleux, aux oreilles et aux yeux de Rilke, hein, de celui qui a le courage d'écrire une œuvre que d'autres jugent à l'emporte-pièce en décrétant « c'est nul, c'est bien ». Enfin bon.
Enfin, la critique ne se limite pas qu'à ça. Enfin,
non, mais en l'occurrence, quand on le lit ici, et quand il dit « rien ne permet aussi peu de toucher une œuvre d'art que les mots de la critique », on a une critique de la critique qui est un thème récurrent, hein, dans les lettres à un jeune poète. Juste avant de parler de critique, Paola, un point quand même qui est important pour ceux qui n'ont pas en tête ces 10 lettres extraordinaires que tout le monde peut lire, qui sont bouleversantes, qui sont splendides, et que Rilke a écrit tant pour son destinataire que pour l'éternité, une petite remarque à la gloire de M. Capus, dont il est écrit qu'il aura vécu pour être le récipiendaire de ses lettres, et qui a su s'effacer derrière Rilke, c'est-à-dire qui a su donner le jour à ce texte, qui a su le créer, au fond, en nous épargnant la lecture de ses propres lettres, qui n'arrivent pas au talon de celles de Rilke, alors qu'il aurait tout à fait pu instaurer un dialogue. Vous savez, la plupart des gens qui veulent se vanter se flattent d'instaurer un dialogue entre tel intellectuel de quatrième ordre, se piquant d'être en dialogue vibrant avec Emmanuel Lévinas, si vous voulez. La plupart des gens montent sur des escabeaux ou montent sur des géants pour se grandir eux-mêmes. Capus a eu l'élégance de s'effacer, de se comparer lui-même à un nain qui s'adresse à un géant et de disparaître. Suprême élégance de la part de cet homme qui a permis du coup à ses lettres d'exister et de ne pas répondre à des missives indigentes pour finalement s'adresser à tout le monde. Et quand les lettres sont parues, je crois, à titre posthume, on s'est demandé si c'était une supercherie, si c'était un coup éditorial, si c'était vraiment sérieux, etc. Le fait que Capus ait eu la décence de ne pas polluer les lettres de Rilke par ses lettres propres, hein, qu'il ait eu la grandeur de se savoir si petit, ce fait-là donne à ses lettres véritablement l'ampleur qu'elles méritent, c'est-à-dire une ampleur universelle. Mais alors, on en revient à la critique, hein, Paola. Oui.
Deux mots par rapport à la correspondance. C'est aussi un petit peu étrange qu'on connaisse beaucoup, enfin presque plus Rilke, en tout cas en France, pour ses lettres, pour sa correspondance qui est immense, avec Rodin, avec Verhaeren, avec Lou Andrea Salomé, avec son amie vénitienne, que pour ses poèmes comme Les élégies de Duhano.
Oui, parce que la poésie de Rilke est difficile. Et c'est là que les lettres sont très utiles, que la lecture des lettres est très utile, parce que c'est une poésie dont les lettres renseignent sur la sincérité. Parce que face à un texte comme dans Les élégies de Duhino, par exemple, qui est un texte extrêmement difficile, très difficile, ce texte-là est si complexe, si difficile, ou si simplement difficile, ou difficilement simple, je ne sais pas, emploie des mots tellement étranges à l'endroit où il les utilise, qu'un lecteur qui n'a pas envie de se casser la tête peut tout simplement ne pas être touché par ça. Et soupçonner, comme on a pu soupçonner René Char, par exemple, d'insincérité à cause de l'obscurité de son langage, peut le soupçonner d'imposture, en réalité. Or, commencer, entamer la lecture de Rilke par les lettres est une garantie d'honnêteté dans les poèmes qu'on lira ensuite. Or, c'est très important pour accéder à une poésie qui est une poésie difficile, de savoir, de ne pas douter de la probité de son auteur. Or, quand on lit les lettres, on ne peut plus douter de la probité qui est celle de Rilke. Donc, ce que vous déplorez, Paola, à bon droit, est aussi une bonne chose parce que, du coup, les bases sont solides. Et ce qu'on pourra transmettre de l'œuvre, ou ce qui se transmet de l'œuvre elle-même, de l'œuvre poétique elle-même de Rilke, s'assoit sur le socle constant et fiable d'une honnêteté qui n'est pas douteuse et à laquelle, pour le coup, parce que les lettres sont tout à fait intelligibles, tout le monde a accès. Donc moi, je m'en réjouis.
Et pour en revenir à la lettre qu'on a entendue, enfin on a entendu qu'une toute petite partie, le tout début de la première lettre, et ce qui suit est étonnant parce que ça vient presque contredire, puisque Rilke dit qu'il ne se permettrait pas de juger les poèmes de Capus et puis les lignes juste après, je les lis. Après cette remarque en préambule, il m'est seulement permis de vous dire encore que vos vers n'ont pas de manière propre, mais qu'on y trouve pourtant silencieux et recouverts les rudiments de quelque chose de personnel.
Oui, 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 c'est étonnant. Après avoir dit, et il faut explorer le détail hein, de cette critique de la critique parce que c'est important, après avoir dit à quel point toute intention critique était vaine, stérile. Cette phrase de Lautner qui me semble décisive, qui dit que les critiques sont des impuissants qui parlent d'amour, si vous voulez. Après avoir dit cela, que fait-il ? Il fait non pas la critique des poèmes de Capus, mais c'est un assassinat des tentatives poétiques du pauvre Capus à qui Rilke, qui n'a que 28 ans hein, quand il lui écrit ça, explique qu'il n'est pas du tout fait pour la poésie. Et on verra en quels termes. Mais avant ça, Paola, il faut bien comprendre pourquoi, au fond, à ses yeux, ce qu'est le critique ou l'intention critique aux yeux de Rilke. Le problème fondamental de la critique, c'est son extériorité quant à l'objet qu'elle explore, qu'elle analyse. On a en fond sonore l'idée que la seule critique qui vaille est une critique amoureuse, c'est-à-dire féconde ou créatrice. Or, la critique est destructrice parce qu'elle est étrangère à l'objet qu'elle se donne, à la façon dont un lecteur un peu désinvolte, lisant les élégies de Rilke, trouve ça abscons et déclare que c'est nul parce qu'il n'y a rien compris, si vous voulez. Aux yeux de Rilke, le critique est comme un bichon maltais qui essaie de gêner ou d'entraver la marche d'un colonel prussien, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'infime qui s'en prend à l'infini. C'est l'infime que un droit démocratique, à qui un droit démocratique donne le droit de taper sur l'infini. La critique est exercée par ceux qui, n'ayant pas accès aux sphères qu'ils jugent du haut de leur escabeau, décident du destin public ou collectif d'un travail dont la logique intime leur échappe résolument. Comme le jugement, la critique est affaire d'extériorité. Et en cela, d'ailleurs, Rilke reprend, il ne le cite pas ici, mais je suis certain qu'il l'a en tête, le passage dans le Crépuscule des idoles où Nietzsche parle à propos de Socrate de méchanceté du rachitique. Alors, l'expression de Nietzsche sur Socrate était une critique de la dialectique, c'est-à-dire il dit Socrate c'est quelqu'un qui se sert de la raison pour humilier des aristocrates. C'est quelqu'un qui se sert de la raison pour humilier la beauté. Derrière sa quête de connaissance, il y a le désir d'humilier celui dont la beauté lui échappe au fond et qu'il envie en définitive. Donc il parle d'une méchanceté de rachitique. Mais en fait, l'expression de Nietzsche, méchanceté du rachitique, s'applique idéalement à ces commensaux de l'écriture, à ces poissons pilotes de l'écrivain, que sont les critiques, à qui des malentendus plus ou moins heureux valent de parfois tomber juste. Mais même, vous savez, c'est comme le peuple chez Pascal. Pascal dit encore que les opinions du peuple soient saines, elles ne le sont pas dans sa tête, car il pense que la vérité est où elle n'est pas. La vérité est dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent. Même quand un critique tombe juste, c'est par hasard. Si vous voulez, aux yeux de Rilke. Parce que l'extériorité est le péché mortel qui prive tout homme de pouvoir juger quelque chose. Or, Rilke, qui critique le texte de Capus, très violemment, le fait de l'intérieur, et c'est cela qui le distingue et qui lui donne la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que c'est frappant. On peut se demander, au fond, si cette critique de la critique qu'il formule au début de la lettre, et qui ensuite est suivi d'un démontage en règle des tentatives poétiques du pauvre Capus, n'est pas au fond une formule de politesse. C'est-à-dire si on n'est pas encore dans la civilité, si ça n'est pas pour Rilke une manière de dire « voilà, je vais vous décourager dans vos velléités poétiques, certainement, mais comprenez que toute intention critique m'est étrangère ». C'est presque une politesse de sa part, c'est une façon de dire « attention, je ne vous critique pas, monsieur, mais enfin, je vous dois la vérité ». Et il est pris entre la vérité, par laquelle il doit honorer celui qui lui fait une telle confiance, et le dégoût que lui inspirent ceux qui jugent d'ailleurs les textes qu'ils ont sous les yeux. Mais c'est un vrai problème, hein. Capus n'a pas de talent.
Rilke n'a que 28 ans, et pourtant sa critique des poèmes de Capus sonne un petit peu comme une critique de la jeunesse. Je ne sais pas si, enfin, quand il dit non pas de manière propre, de l'immaturité en fait.
Oui, mais on n'a pas, oui. L'âge de ces années, Paola. Vous Bien êtes sûr. Là pour en témoigner. Écoutez ça.
Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous ne devriez pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout, demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, « Dois-je écrire ?» Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée.
Là, c'est pas l'apparatif kantien du « je dois », mais c'est celui du poète. Enfin, c'est étrange comme question, enfin, le fait que ça soit une nécessité, que ça parte d'une nécessité.
Et d'ailleurs, on fait en général, ordinairement, de l'artiste une figure de la liberté. Hein. C'est une figure commodément brandie par tout le monde. L'artiste est une figure de la liberté. Il est libre, l'artiste. Bon. Et la liberté de l'artiste est sacrée, il faut la préserver, etc. Le problème, c'est qu'en général, quand on parle de la liberté de l'artiste, on la réduit bien souvent implicitement. Une sorte de liberté capricieuse. Au fond, l'artiste fait ce qu'il veut. Or, l'artiste, c'est exactement celui dont la liberté consiste à ne pas faire ce qu'il veut. C'est celui dont la liberté consiste à éprouver en lui-même qu'il n'a pas le choix. Et c'est le sens de cet impératif. Ça n'est pas un impératif coercitif, au sens où un individu s'imposerait à lui-même de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. « Je dois arrêter de fumer. » Je dois m'arrêter au feu, je dois renoncer à cette fille, je dois, voyez, à la façon dont on essaie à grands coups de volonté de s'imposer quelque chose à soi-même. Ici, rien de la sorte, rentrez en vous-même, découvrez la nécessité, c'est-à-dire l'intimité qui vous compose, qui vous constitue. Vous savez, la liberté de l'artiste tel que Rilke la dessine ici en creux ressemble, et c'est en cela qu'on est en pleine métaphysique tout de suite, ressemble à ce que Leibniz dit de la parfaite liberté de son Dieu. En quoi la liberté de Dieu, chez Leibniz, est-elle parfaite, Paola ?
Non, je m'en souviens pas du tout.
Mais
prise comme ça, au dépourvu.
Mais oui, au dépourvu, voilà. Leibniz, si, voilà, c'est comme ça, il va falloir vous y faire. La parfaite liberté de Dieu, c'est... Leibniz a besoin de préserver la transcendance du divin, c'est-à-dire le fait que Dieu est un Dieu volontaire, est un Dieu qui a un principe de décision, c'est-à-dire qui décide de porter ce monde au jour. Mais en même temps, Dieu est bon. Ce qui fait que le dieu de Leibniz est en vérité deux fois contraint. Une fois par les lois de la mathématique, il ne peut pas changer. Contrairement au dieu de Descartes, on en a déjà parlé, le dieu de Leibniz ne peut pas faire que 2 et 2 fassent 5. Donc il ne peut pas changer les lois de la mathématique. Il est soumis aux lois de la mathématique comme nous. Et il est soumis au carré, à sa propre bonne volonté. Puisque Dieu est bon, Dieu ne peut pas vouloir un monde qui serait moins bon que celui qu'il a voulu. Donc il est soumis par la mathématique, c'est-à-dire les vérités éternelles, comme par sa bonté, c'est-à-dire les vérités contingentes, à produire le meilleur des mondes possibles, celui qui obéit au calcul du meilleur. Et Leibniz, à ce moment-là, pour ne pas dire que Dieu est esclave, au fond, et pour préserver l'idée d'une volonté divine et donc d'une transcendance divine, alors qu'en fait, il n'y a plus de transcendance chez Leibniz, pour ne pas le dire, il parle d'une parfaite liberté. Or, cette parfaite liberté, qui ne fonctionne pas, à mon avis, à l'échelle divine, fonctionne parfaitement à l'échelle du poète. Justement. Parce que ce qui est incompréhensible à l'échelle divine n'est pas contradictoire à l'échelle de l'artiste, parce que la plus haute liberté du poète, c'est d'éprouver en lui l'absence de choix. Une œuvre d'art est bonne, dit Rilke, si elle provient de la nécessité. Un peu plus loin, dans une autre lettre, il dira, c'est une phrase sublime, « Allez dans les profondeurs, car dans les profondeurs, tout devient loi. Retrouvez la loi qui est en vous. » Saisissez la loi qui est en vous, éprouvez, atteignez cet endroit, ce point où vous êtes enfin débarrassé d'une volonté frivole et capricieuse, de cet apparat frivole qu'on appelle la volonté, qui vous fait croire que la liberté c'est de choisir X plutôt qu'Y ou Y plutôt que X. Fausse souveraineté. La vraie souveraineté, elle est dans les profondeurs, là où il y a des lois et là où on n'a pas le choix. Un peu plus loin, il dit « L'individu qui est solitaire est comme une chose soumise aux lois profondes. » Et peut-être la meilleure façon de donner à comprendre ce paradoxe, Paola, d'une liberté qui est d'autant plus puissante, effective, palpable, sensible et audible par les autres. La meilleure expression de cela, c'est le paradoxe de l'improvisation ou de la spontanéité. La spontanéité, c'est une façon d'être inaugurale On en parlera quand on parlera de Bergson. C'est une façon d'être inaugural tout en étant réactif. On dit « est spontané » un réflexe, donc vous réagissez à quelque chose. Mais en même temps, quand on dit de quelqu'un qu'il est spontané, c'est qu'il est l'origine de ses actes. Vous êtes inaugural tout en étant réactif. Vous combinez la nécessité et en même temps l'originalité dans le mot de spontanéité. Mais on le trouve en pratique dans la figure de l'improvisateur. Qu'est-ce que c'est qu'une improvisation, Paola, littéralement ?
C'est ce qu'on fait parfois.
C'est ce qu'on fait en ce moment.
Voilà.
C'est ce qu'on fait en ce moment, vous et moi. Or, que fait-on en ce moment, vous et moi ? On parle d'un livre en disant les idées qui nous viennent et en essayant autant que possible d'être fidèle aux intuitions qui nous viennent et au texte qu'on a sous les yeux, de le respecter, de le chérir, de le transmettre autant que possible aux gens qui nous écoutent. Nous sommes absolument contraints et pourtant nous ne savons pas où nous allons. On ne sait jamais, vous ni moi, comment finira l'émission à l'instant où nous l'entamons. On est dans une sorte de finalité mais sans fin. On ne sait pas où on va. Nous sommes en train d'improviser. Nous ne savons pas ce que nous allons nous dire. Je ne sais pas quelles questions je vais poser ou je vais vous poser. Vous ne savez pas à l'avance quelles questions vous allez me poser. On est dans l'improvisation. Mais on n'est jamais autant dans l'improvisation que quand on est dans la nécessité. C'est ce paradoxe-là. Ce sont les lois que Rilke veut mettre au jour, si vous voulez, qui sont à l'œuvre dans le simple fait de l'improvisation. Qu'est-ce qu'une poésie ? Une poésie, c'est une improvisation étayée par un savoir qu'il faut oublier quand on le met en œuvre. C'est le moment où le savoir se fait inconscient, implicite, pour donner le jour, si vous voulez, à un poème. La connaissance, c'est l'envers du décor. Les lois sont l'envers du décor. Seule compte la candeur virginale de celui que son savoir a conduit jusqu'à la poésie. Mais cette candeur-là, elle s'obtient par l'épreuve en soi d'une nécessité. Or, c'est ça que Rilke décrit. Cette nécessité qui culmine dans un éloge de l'indicible, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il décrit.
Ici m'entoure un immense pays sur lequel passent les vents venus des mers. Ici, je sens qu'à ces questions et à ces sentiments, qui ont dans leur profondeur une vie propre, personne, nulle part, ne saurait apporter de réponse. Car même les meilleurs se fourvoient dans les mots lorsqu'ils ont à faire entendre du très subtil, du presque indicible.
C'est toujours les poètes qui disent le mieux le tragique, enfin l'impossibilité du langage en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours les meilleurs prosateurs qui n'arrêtent pas de dire les meilleurs se fourvoient dans les mots lorsqu'ils ont à faire entendre du très subtil, du presque indicible. C'est fou, hein ? Jean Kelevitch, pareil, quelque part dans l'inachevé, il n'arrête pas de dire que les mots n'arrivent pas à dire.
Bergson.
Bergson, c'est le premier à dire « en ce point est quelque chose de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire ». Clément Rosset, pareil. Nietzsche est un contempteur du langage qui ne cesse de dire « Hélas, mes pensées, qu'êtes-vous devenues maintenant que vous voilà écrites et peintes ? Certaines sont même en passe, catastrophe, de devenir des vérités. » Rousseau, immense prosateur, malgré tout, ne cesse de décrire l'impuissance du langage. Et alors, chez Rousseau, ça prend la forme de l'inutilité des livres.
Ici aussi.
Et ici aussi.
Enfin, de livres de critique. Lisez le moins possible.
Oui, lisez le moins possible. C'est-à-dire, référez-vous le moins possible à autre chose que vous-même. ce qui demande à être bien compris, parce qu'il ne s'agit pas d'une position arrogante, de la position arrogante de celui qui, dépourvu de toute humilité, considère qu'il n'a besoin de personne pour apprendre son métier ou son travail. Quand Rilke dit « rentrez en vous-même », ça ne veut pas dire « faites confiance à vos opinions ». Quoi. C'est pas ça. Rentrer en vous-même, c'est écouter ce qui, en vous-même, est plus large, plus grand, plus ample, plus vaste que vous-même. Ne soyez pas reconduit à vous-même par les critiques qui ne donnent de vous qu'un reflet. N'essayez pas de vous modeler sur le reflet que les critiques vous donnent de vous-même. Écoutez les conseils que vous recevez, pas les critiques. Écoutez les conseils que vous recevez, naturellement. Mais sachez bien que les maîtres sont tous mauvais, que les critiques sont tous mauvais. Seul compte la découverte, l'exhumation en soi, d'une loi intérieure, qui vous permettra de, peut-être, sinon de parvenir à la poésie, du moins de faire une sorte de voyage intérieur qui en lui-même n'est pas vain. Ça n'est pas vainement qu'on conduit, que le poète ou que l'apprenti poète peut conduire ce genre d'ascèse. Au moins, si le poète découvre au terme de ce voyage intérieur qu'il peut tout à fait vivre sans écrire, alors c'est qu'il n'est pas porté par cette nécessité-là. Mais il faut avoir exhumé les nécessités qui nous composent pour savoir qu'on est poète ou qu'on ne l'est pas. Au fond, on n'est pas poète comme on est autre chose, si vous voulez. Ça ne se fait pas au hasard. Et au fond, le texte de Rilke renvoie à un problème qui est un problème adolescent. Les adolescents se disent « qu'est-ce que je vais faire plus tard de ma vie ? Alors moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien être ci, j'aimerais bien être ça. » Et on présente les trajectoires de l'existence comme autant de possibles, dont il faut se donner les moyens, mais autant de possibles qu'une volonté, encore une fois, un peu frivole, un peu capricieuse, pourrait élire indifféremment. Or, le sens de la vie, si sens de la vie il y a, n'est pas dans l'élection hasardeuse de telle ou telle option plutôt que telle autre. Le sens de la vie est dans la découverte de ce pourquoi on est fait. Et de ce sans quoi on est fait, c'est-à-dire fait comme un rat, c'est-à-dire découverte de la liberté qu'on porte en soi, c'est-à-dire du souverain bien, en définitive, de ce qu'on désire, même quand on l'obtient. Et chez Rilke, qui est pleinement poète, quand il écrit le 16 juillet 1903, « Ici m'entoure un immense pays sur lequel passent les vents venus des mers. Ici, je sens qu'à ces questions et à ces sentiments qui ont dans leur profondeur une vie propre, personne nulle part ne saurait apporter de réponse, etc. » Il découvre, au fond, ce qu'il mime, ce qu'il propose à Capus. C'est un voyage intérieur au terme duquel il découvre le fait que les meilleures choses ne sont pas discibles. Et que la trace, le but de la poésie, c'est de toucher, d'effleurer cet indicible.
Et la solution qui donne à cette absence de réponse, c'est justement qu'il faut aimer les questions en elles-mêmes. Ah, et oui, ça, c'est très beau quand il dit ça.
Ça, c'est magnifique, aimer les questions elles-mêmes. C'est là qu'on est en pleine philosophie, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ?
Ben, c'est ça, c'est la question et pas la réponse.
C'est la question et pas la réponse. Mais alors, il y a deux façons d'en faire. Est-ce que c'est la question faute de réponse, c'est-à-dire une réponse qui n'est jamais satisfaisante. Au fond, c'est l'idée que chaque phrase, je crois que c'est Lewis Carroll qui dit ça, chaque phrase est une réponse à une question. Qu'en définitive, quand nous répondons, eh bien, nous suscitons une question. Il y a toujours une question de plus. Il y a plus de questions que de réponses. Au fond, il y a une question de plus. Dans l'infini des questions et dans l'infini des réponses, c'est infini plus un pour les questions. Donc, c'est l'idée que la philosophie n'en a jamais fini avec la question. Mais on peut l'entendre aussi différemment, parce que aimer les questions, ce n'est pas seulement les aimer faute de réponse. C'est chérir la question, c'est-à-dire s'attacher à ne pas répondre. Au fond, ce que Rilke dit, il dit, vous allez peut-être croiser la réponse, je ne sais plus comment il dit ça dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, peut-être trouverez-vous un jour la réponse ou quelque chose comme ça, mais c'est
peut-être
secondaire.
Peut-être en viendrez-vous à vivre peu à peu, sans vous rendre compte, un jour lointain, l'entrée dans la réponse.
Attends. Voilà, l'entrée dans la réponse.
Oui, c'est ça.
C'est secondaire, c'est presque une propriété émergente au fond. Ce qui compte, c'est de chérir la question, c'est-à-dire chérir le questionnement. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'un philosophe généalogiste, Paola ? C'est quelqu'un qui, au lieu de répondre à la question qu'on lui pose, se demande d'où vient la question qu'on lui pose. À quelle passion, à quelle humeur, à quelle intention éventuellement correspond la question qu'on lui pose. C'est ça, aimer les questions. Aimer les questions, c'est pas juste considérer qu'il y a plus de questions que de réponses. Parce que considérer qu'il y a plus de questions que de réponses, c'est au fond considérer que la vérité est trop lointaine pour qu'on la saisisse. Aimer les questions elles-mêmes, c'est autre chose. Aimer les questions elles-mêmes, c'est considérer que la réponse est trop facile. C'est trop facile de répondre et c'est beaucoup plus difficile de questionner.
C'est le passage dont on avait parlé quand on avait parlé de Montaigne et il avait fait une comparaison avec la course et dans la chasse, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ah oui, la chasse, au moment de la chasse.
Et il dit que ce qui compte, ce n'est pas le gibier, mais c'est le plaisir de la course elle-même.
Exactement, et c'est la métaphore de l'archer. Ce qui compte n'est pas le cœur de la cible, mais la rectitude du geste. Au fond, le but est secondaire, la réponse est secondaire. Ce qui compte, surtout, la réponse est trop facile, en définitive. C'est trop facile de répondre, c'est très facile de répondre, c'est beaucoup plus difficile de questionner. De la même manière, et c'est en cela d'ailleurs qu'en philosophie, on peut comprendre que le doute soit une valeur ajoutée. Remplacer une vérité par un doute, c'est progresser en philosophie, parce que c'est instaurer un régime de questions là où on était sous le régime rassurant, mortifère et plane, plat comme un trottoir de rue, des vérités et des réponses. Donc aimer les questions elles-mêmes, c'est ça. Mais pour penser ça, il a besoin de penser le silence. Il y a une ontologie derrière ça. Il y a un discours de l'être derrière cet amour de la question. Il y a un discours sur l'être. Or, quel est ce discours sur l'être ? C'est un éloge du silence, c'est-à-dire de tous les bruits de la nature. Imaginez que vous preniez l'ascenseur, par exemple, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord ? Donc, qui n'est pas Michel Mestre, ni Luc-Jean Reynaud, ni moi-même. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon. Et que vous alliez au 10e étage de la maison de la radio. Donc, le voyage dure indéfiniment. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ce genre de mésaventure arrive très souvent. Hein. Puis, ça dure toujours trop longtemps. Alors, chacun dans son coin, on vérifie qu'on a ses clés, on regarde son portable, on jette un œil sur l'autre, et puis on se sourit, et puis on passe à autre chose, on vérifie qu'on n'a pas de réseau sur le portable, etc. etc. Voyez ? Bon. Si, coup de bol, l'ascenseur s'arrête, il y a une panne. À ce moment-là, vous avez un sujet de conversation. Et là, vous brisez la glace. Oh, c'est fou quand même, les ascenseurs ne marchent pas. Après tant d'années de travaux dans la maison ronde, les ascenseurs continuent de ne pas marcher. C'est quand même un scandale, c'est bizarre, vous avez appuyé sur le bouton, etc. Vous rentrez dans un espace de dialogue et la personne à qui vous aviez dit juste bonjour et à qui vous apprêtiez à dire bonne journée en sortant de l'ascenseur, vous rentrez dans un espace de dialogue et vous brisez la glace. D'accord ? Qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Il se joue là-dedans le fait rilkéen, si j'ose dire, qu'on ne se tait pas avec le premier venu. C'est une phrase de Maeterlinck, dès qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, on est obligé de se taire. Or, la personne avec qui, que vous ne connaissez pas, que vous croisez dans l'ascenseur, avec qui vous n'avez aucune envie de partager la moindre intimité, ou la moindre complicité, eh bien, vous êtes mise dans la situation d'être en intimité avec elle par le silence gêné lui-même. Ce qui est gênant dans le silence, c'est le silence lui-même, dans un ascenseur. Ce qui nous gêne, ce n'est pas la présence de l'autre. Ce qui nous gêne, c'est le silence. C'est le silence lui-même, parce que ce que le silence instaure entre deux êtres, c'est une forme d'intimité. Ce que l'indicible, le non-dit, instaure entre deux êtres, c'est une forme d'intimité. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'avez pas envie d'être intime avec tous les gens qui travaillent à la maison de la radio. Voilà.
Ça risque d'arriver, les ascenseurs de la maison de la radio sont remplis du son des infos, de la voix des infos en permanence.
Oui, vous avez raison, absolument.
Pas.
Sauf que la voix des infos, du coup, c'est comme les bruits du silence, si vous voulez. Si vous vous taisez face à quelqu'un, vous pouvez au moins tendre l'oreille et écouter la chose. Ça fait un sujet de conversation. Imaginez que vous entendiez un truc hallucinant à la radio pendant que vous êtes dans l'ascenseur, vous avez l'occasion de briser la glace, de rentrer dans la parole. C'est-à-dire dans le rien. Vous sortez du silence pour basculer dans le rien. Dans le rien, dans le néant d'une discussion. Le néant, pour le coup, indolore. Ce que Rilke laisse entendre quand il décrit les paysages, la nature et le silence de la nature et ce réel qui n'est pas là pour nous, c'est que le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de parole. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le silence préfère la nuit. Quand le silence, c'est une phrase de Jean Kelevitch, quand le silence fait alliance avec la nuit, on découvre que la pureté du silence se décompose en une multitude de craquements légers. Or, c'est ça qui est insupportable à partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, au fond. Et c'est en cela que le silence est gênant. Sortir du silence, c'est basculer dans la parole. Basculer dans la parole, c'est sortir de l'indicible, c'est-à-dire sortir de la poésie. Il n'y a pas de poésie hors du silence. C'est l'une des leçons paradoxales d'un des plus grands poètes de tous les temps. Il n'y a pas de poésie loin du silence. La poésie n'est jamais loin du silence.
Et de la solitude.
Et de la solitude, c'est la même affaire. Au fond, c'est la même histoire.
Nous sommes solitaires. On peut s'illusionner et faire comme s'il n'en était pas ainsi. C'est tout. Mais il vaut bien mieux comprendre que nous sommes seuls. Il vaut mieux tout simplement partir de là. Alors il arrivera assurément que nous ayons le vertige, car tous les points sur lesquels notre œil avait l'habitude de se reposer nous seront soustraits. Il n'y a rien de plus proche et tout lointain est infiniment loin. Qui serait transporté sans presque aucune préparation ni transition de sa chambre sur la cime d'une haute montagne devrait ressentir quelque chose de semblable. Dans une incertitude sans pareille, à la merci de ce qui n'a pas de nom, il serait quasi anéanti. Il aurait l'impression de tomber, ou bien se croirait expulsé dans l'espace, ou brisé, dispersé en mille morceaux. Quel énorme mensonge son cerveau ne devrait-il pas inventer pour rejoindre ses sens dans cet état et pour l'éclaircir? C'est ainsi que change, pour qui devient solitaire, toutes les distances, toutes les mesures. Beaucoup de ces changements s'accomplissent subitement et, comme chez cet homme au sommet de la montagne, il se forme alors des imaginations inhabituelles, des sensations bizarres qui semblent croître au-delà de tout supportable. Mais il est nécessaire que cela aussi nous le vivions.
Alors, ce paragraphe de cette lettre écrite de Suède en 1904, qui parle de la solitude, est entièrement à la première personne du pluriel.
Oui, c'est vrai. C'est une sorte de communauté poétique. En fait, il y a une petite ambiguïté là-dedans. On ne sait pas, Cyril, que parle des poètes, la communauté des poètes, qui sont solitaires par définition, et sa propre trajectoire, son érémitisme à lui, un érémitisme qui n'est d'ailleurs pas contrarié par la fréquentation des villes. Il reste seul, il est presque encore plus seul dans les villes. Cette solitude qu'il décrit, dont il faut qu'on parle, parce que c'est le cœur de l'affaire, hein. Cette solitude sans nom, comme il dit, une solitude sans nom, donc une solitude indicible, qui est la seule condition à ce qu'il appelle une seule et heureuse issue, cette solitude sans nom est indifféremment, au fond, la condition du poète malheureux, du poète solitaire, sinon malheureux, en tout cas solitaire, mais c'est, et indifféremment, la condition donc du poète, mais aussi de toute personne, de tout humain, dont les tentatives consistent à conjurer éperdument cette solitude qu'il pressente, si vous voulez. On danse les uns contre les autres, etc., etc. Donc vous voyez, par exemple, comme le raconte Michel Berger, au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Ça n'est pas que le poète, ça. C'est toutes les personnes qui dansent, qui s'engueulent, qui crient, qui font l'amour, qui tentent, en faisant l'amour, de réaliser, d'obtenir la fusion et qui ne réalisent que l'abîme.
Je vous interromps, Raphaël, parce que justement, c'est assez paradoxal. Enfin, en fait, pas du tout, c'est une fausse contradiction, vous allez encore me le dire. Mm-hmm. Mais un autre éloge... Il y a l'éloge de la solitude dans les lettres à un jeune poète et il y a l'éloge de la sexualité.
Oui, et il y a l'éloge de la sexualité. Mais alors, ça n'est pas un paradoxe, hein, tout à fait. Ça n'est pas un paradoxe. Mais alors, il faut, pour comprendre l'éloge de la sexualité dont nous allons parler...
Comprendre celui de la solitude,
oui,
bien sûr.
Oui, travailler sur la question de la solitude, l'un est la condition de l'autre. Ce qui, d'ailleurs, il faut bien comprendre ce qu'il entend par solitude pour comprendre que ce qu'il dit de la sexualité n'est pas un plaisir solitaire, justement. Que c'est même le contraire, justement. Parce qu'il y a, au fond, deux formes de solitude, deux façons, deux manières de solitude, de la solitude. Vous avez l'idée que la solitude est inévitable dans la mesure où tout homme est seul au monde, en définitive. Et en même temps, la solitude est impossible, parce que tout solitaire devient une foule à lui tout seul. C'est Yourcenar, Marguerite Yourcenar, qui écrit un moment, elle dit « Je suis seul au travail ». Et encore, si c'est être seul qu'être entouré d'idées, ou d'être né de son esprit, être au pluriel, ce qui veut dire qu'au fond, je ne suis pas seul. Vous voyez par exemple, le fait de parler tout seul, Paola. Parler tout seul n'est un signe de folie qu'aux yeux des imbéciles qui ignorent leur propre solitude. Que fait celui qui parle tout seul? Il ne soliloque pas, il dialogue avec les fantômes qui le peuplent et qui, littéralement, l'altèrent, le font devenir autre. Quand elle est bien vécue, quand elle est choisie et non subie, quand elle est ce que Rilke appelle de ses vœux, c'est-à-dire la grande solitude intérieure, aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne. Quand elle est cela, la solitude, elle préfère la compagnie véritable des êtres parfois imaginaires qui nous hantent à la sollicitude artificielle des gens qui nous distraient. C'est Guitry qui dit « Combien de gens augmentent votre solitude en venant la troubler ?» Et c'est à cette solitude-là que Rilke fait appel. Ça n'est pas la solitude du solipsiste ou du misanthrope ou du reclus mortifié par sa condition. C'est l'amoureux satisfait d'aimer. C'est celui qui bénit la chance de vivre loin des regards.
On trouve toujours la même intuition dans le Gai Savoir, justement, de Nietzsche.
Oui, bien sûr, parce que la solitude que Nietzsche appelle de ses voeux, la solitude sur les cimes, la solitude qu'il appelle de ses voeux, c'est un amour de soi qui permet le basculement de la douleur à la candeur, qui permet ce passage-là, qui est la condition de la philosophie et de la poésie. Et on voit à quel point c'est absurde de dissocier les deux, au fond. À quel point les deux sont faits pour s'entendre. Le solitaire, c'est celui qui médite, c'est celui qui s'immerge, c'est celui qui éprouve la nécessité qui le traverse, qui se donne les moyens de ne pas haïr, de ne pas regretter, mais de comprendre, de s'étonner, par-delà bien et mal. C'est-à-dire de regarder le monde comme une source d'intérêt. Et c'est à cette solitude-là que Rilke fait appel. Une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. S'il n'est pas de communion entre les hommes et vous, essayez d'être près des choses, elles ne vous abandonneront pas. Il y a encore des nuits, il y a encore des vents qui agitent les arbres et courent sur les pays. Dans le monde des choses et dans celui des bêtes, tout est plein d'événements auxquels vous pouvez prendre part. On est en pleine philosophie. Avec des textes comme ça. On est en pleine lumière. Et c'est une solitude qui est aux antipodes de la sécession. Il s'agit d'être solitaire pour justement ne pas faire sécession, c'est-à-dire ne pas essayer de peupler sa solitude d'individus qui la croissent en venant vous distraire. Et c'est à cette solitude-là que Rilke fait appel, et c'est à l'aune, je crois, d'une telle solitude qu'on peut comprendre ce qu'il dit de la sexualité, par exemple.
Et de fait, l'expérience vécue de l'art est incroyablement proche de la vie sexuelle, de sa douleur et de sa jouissance, au point que les deux phénomènes ne sont que deux formes différentes d'un seul et même désir, d'une seule et même félicité. Et si, au lieu du rut, il était permis de dire sexe, dans le sens grand, large, pur, là où nulle église ne saurait venir égarer ses soupçons, alors son art serait très grand et infiniment important. Sa force poétique est grande, puissante, comme une pulsion originaire. Elle a en elle-même ses rythmes propres, qu'aucun égard ne retient, et comme d'une montagne, elle fait éruption hors de lui. Alors, on voit là la comparaison, enfin, plus que la comparaison, en fait, c'est la métaphore, puisque c'est le lien.
On ne sait pas ce qui est la métaphore de l'autre.
Voilà, c'est l'union.
L'union, c'est la même affaire. On trouve d'ailleurs derrière ça. L'idée que, au fond, paradoxalement, hein, la chasteté est l'économie de l'artiste, comme dit Nietzsche. C'est parce que c'est la même affaire, c'est parce que ça se passe au même endroit, c'est parce que c'est la même histoire, au fond, c'est parce que c'est presque le même geste, écrire et faire l'amour, faire de la poésie ou faire l'amour, faire de l'amour ou faire l'amour, si vous voulez. C'est parce que c'est, au fond, la même chose et qu'à cet égard, rien n'est plus beau. Du sexe au sens grand, large, pur, noble, ou de la poésie, rien n'est plus beau que ces deux instances-là. C'est pour ces raisons-là que des auteurs comme Nietzsche, comme Camus, qui s'en prennent à toutes les calomnies du corps, à tous les délires de l'Église sur une sexualité qui serait réglementée ou pire, indexée, animalisée, c'est-à-dire indexée sur l'impératif de se reproduire, ce qui est vraiment une manière de pour le coup, considérer que la sexualité a pour but la reproduction, c'est vraiment faire des humains des bêtes. On en a déjà parlé. Il n'y a pas plus bestial, plus animal et moins humain que de réduire la sexualité à l'impératif de reproduction. Ici, ce que Rilke décrit dans ce plaisir gratuit qu'est la sexualité, c'est exactement la même chose que la poésie. Et c'est donc la raison pour laquelle les grands défenseurs du corps contre les calomniateurs du corps, c'est-à-dire Nietzsche et Camus, Spinoza avant eux, mais bon, disons Nietzsche et Camus, sont, comme par hasard, ceux qui prônent la chasteté quand on bosse. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas être, si j'ose dire, pardon, au four et au moulin. C'est pas possible. La chasteté, c'est l'économie de l'artiste. Alors, pour Nietzsche, par exemple, la chasteté est un vice si elle a pour objet de tuer les sens, puisque évidemment, rien n'est pire que de mettre à mort les sens, les cinq sens, puisque c'est avec ça qu'on pense. Mais en revanche, l'innocence des sens et la hiérarchie des priorités, ça, c'est fondamental pour lui. Et c'est une hiérarchie où il sacrifie bien volontiers la sexualité au bonheur de l'écriture, à cette autre façon de jouir qu'on appelle l'écriture. Camus, par exemple, dit un jour, il dit dans ses carnets, « La sexualité ne mène à rien. Elle n'est pas immorale, mais elle est improductive. On peut s'y livrer pour le temps où l'on ne désire pas produire. Mais seule la chasteté est liée à un progrès personnel. Il y a un temps où la sexualité est une victoire, quand on la dégage des impératifs moraux, mais elle devient vite ensuite une défaite. Et la seule victoire conquise sur elle à son tour, c'est la chasteté. » Voyez, c'est parce que les deux sont identiques qu'au fond, on peut trouver un éloge de la chasteté derrière cette équivalence de l'art poétique et de la sexualité. Mais si on creuse encore cette équivalence de l'art poétique et de la sexualité, on peut émettre des hypothèses sur cette identification métaphorique. Au fond, quiconque n'est bon qu'à ça, c'est-à-dire n'est bon qu'à écrire, peut avantageusement comparer un orgasme au fait de trouver le mot juste. Ou bien le fait d'avoir trouvé le mot juste à un orgasme. C'est à peu près une sensation, c'est une félicité, moins physiologique, mais de même ampleur, de même ordre. Quiconque écrit et trouve le mot juste, la bonne phrase, la bonne image, la bonne chute, celui-là jouit de ce qu'il fait à peu près autant que s'il faisait l'amour. C'est comparable. On pourrait dire, au fond, ça n'est qu'un effet de la satisfaction. Voilà, mais il est bien content, quoi, il a trouvé son mot. Pas seulement, je crois pas. Je crois que ce qui se joue dans l'orgasme, justement, c'est que on est dans une, c'est une expérience qui mêle à la fois la connaissance et l'expérience du monde. C'est-à-dire qu'on est dans l'être et le savoir en même temps. Faire l'amour, ou non pas faire l'amour pour se reproduire ou pour se distraire, puisque rien n'est pire aux yeux de Rilke que de... Rilke est un homme de la gravité ou du sérieux. Donc rien n'est pire pour lui que de faire l'amour pour se distraire, au fond, ou pour se divertir. Il redoute la dégradation de la sexualité en divertissement.
Comme écrire des vers de circonstance.
Comme écrire des vers de circonstance, exactement. C'est comme tirer un coup, pardon de le dire comme ça. Mais c'est ça qui est en jeu ici et dans ce que cette expression implique, justement. Tirer un coup ou écrire des vers de circonstance, au fond, c'est la même affaire. C'est la dégradation d'une nécessité fondamentale, d'une joie profonde... en petit plaisir de circonstance. Voilà. C'est ce qui pour lui est une catastrophe. Donc il faut préserver cela. Or pour préserver cela, il faut garder présent à l'esprit le souvenir, par exemple, de la première fois où un corps a entrevu la possibilité du plaisir inouï qu'il portait en lui. Où un écrivain a entrevu la possibilité qui était la sienne de composer un sonnet dont on ne serait pas, dont Rilke ne dirait pas ce qu'il dit des vers de Capus, si vous voulez. Il faut se souvenir de cela parce que, au fond, cet instant, ce moment où l'on met au jour le grand secret de toute chose, qui est la possibilité d'en jouir à l'infini, cet instant-là ne saurait être dégradé. C'est cela qu'il faut préserver. Et c'est ce que le silence permet de préserver, c'est ce que la solitude permet de préserver. C'est ce qu'une solitude ample, c'est-à-dire une solitude qui ne naît pas du repli, mais qui vient au contraire de l'ouverture, et qui s'exprime d'ailleurs dans la cordiale distance qu'il exprime à l'endroit du sympathique Capus, c'est ce que la solitude permet de vivre, précisément. C'est en cela, voyez-vous, que la sexualité, ça n'est pas le triste plaisir solitaire de celui qui se masturbe pour s'apaiser, avant de s'endormir, par exemple. Voyez, c'est la masturbation dont parle Céline quand Bardamu rentre dans sa chambre d'hôtel. Il est tellement déprimé qu'il a même plus envie de se masturber. Et là, il dit, bah là, c'est le désespoir complet. Voyez, c'est ce divertissement qui finit par ne même plus être divertissant. Les gens qui se masturbent pendant des années et qui finissent à la fin par n'y trouver plus le moindre plaisir, c'est-à-dire par avoir sacrifié même ce plaisir-là, ce petit plaisir-là, ce petit chatouillement-là, lui-même a disparu et n'avait déjà plus rien de commun avec la félicité qui s'était emparée du type qui se masturbe pour la première fois, par exemple. C'est à cela que Rilke fait appel. C'est à cette dimension de l'être. Il dit à un moment, « Le sexe est chose grave. Faire l'amour est une affaire sérieuse. C'est l'expression, au fond, là c'est plus lui qui parle, de la souveraineté des forces qui nous composent et qui nous donne à jouir autant qu'à écrire. C'est cela qui est en jeu là-dedans. Et c'est un plaisir transmissible. Voilà. »
Oui, mais vous parlez de gravité, des choses sérieuses, mais pour reparler de Nietzsche, juste un petit mot, ça serait faire les choses sérieuses sans esprit de sérieux, un petit peu.
Mais c'est que n'est pas sérieux celui qui se prend au sérieux. N'est pas sérieux celui qui fait grand cas de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Ça, c'est un manque de sérieux. N'est pas sérieux celui qui va chercher dans la profondeur imaginaire d'une identité de façade, c'est-à-dire de l'identité que les autres lui ont déposée sur le front, dans la conformation à l'idée que les autres s'en font et qu'il prend pour le fond de lui-même, n'est pas sérieux celui qui se satisfait de cela. Être sérieux, c'est aborder les choses avec la légèreté qu'elles méritent. Quand il dit le sexe est une chose grave, c'est qu'il s'agit de joie. Et la gravité de la joie est légèreté supérieure, si vous voulez. C'est cela qu'il décrit. C'est cette félicité qu'il faut préserver du temps, de sa dégradation dans le temps. C'est en cela, vraiment, je crois, on a à peine entrevu ce qu'il y avait dans ces lettres à un jeune poète. Et cette émission a pour but de vous en donner, chers auditeurs, chère Paola, pas à vous, puisque vous connaissez ce texte, mais ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui n'ont pas lu ce texte ou qui ne l'ont pas relu depuis longtemps, de vous donner le goût de vous y plonger. La lecture des lettres à un jeune poète. Je voudrais juste finir là-dessus, parce que Rilke compare à un moment le fait de créer au fait de comprendre. Le jugement de goût, comme le jugement de l'artiste, c'est au fond la même chose. L'espèce de jubilation que ressent le poète quand il donne le jour à quelques vers est en tout point comparable et de même nature que la jubilation ressentie par un lecteur qui n'écrit pas ce qu'il est en train de lire, mais qui sent se dérouler en lui, qui sent vivre en lui, palpiter en lui, la logique, ou l'illogique du poète dont il est en train de lire le texte. Et au fond, c'est là, voyez-vous, qu'il ne s'agit pas d'un plaisir solitaire. C'est là que se forme la seule communauté possible, c'est-à-dire la communauté des gens qui savent éprouver la même chose, de ceux qui savent à la lecture éprouver la même chose que ce que le poète a éprouvé dans l'écriture. Et c'est enfin, c'est le mot de la fin, mais c'est vraiment, je crois, la raison pour laquelle il faut en passer par les lettres à un jeune poète pour en venir à la poésie de Rilke et découvrir les merveilles ineffables, indicibles, qu'il a pourtant couchées sur le papier. Merci Paola, merci à tous, merci à Luc Jean Reynaud, à Michele Maestro, à la technique, Michel qui me rappelle opportunément, mais un peu tard, qu'un ascenseur ne marche pas, mais fonctionne, il a raison. Merci à Alice Ramon, notre attachée de production, et merci évidemment à Georges Claes d'avoir si bien lu ce texte si beau. Relisez à votre tour, chers auditeurs, ce monument de littérature que sont les lettres à un jeune poète. S'il prend le cœur et donne à frissonner, c'est que, de même qu'on ne percevrait pas la vague si on ne percevait confusément les gouttelettes qui la composent, on ne serait pas si ému par la parole du poète si l'on y percevait parfois à notre insu l'ampleur philosophique, c'est-à-dire existentielle, des conseils qu'un grand écrivain s'aventure à donner à un nouveau venu. L'émission d'aujourd'hui d'ailleurs est dédiée à un jeune poète, en tout cas un être poétique dont la sagesse n'a pas attendu le nombre des années, un être que vous connaissez mieux que lui-même, Paola, puisqu'il s'agit de Solal Rehman, votre frère, votre cadet, à qui nous devons, un heureux hasard, d'avoir fait connaissance, vous et moi. Solal, croisé par moi un jour de printemps ou d'automne, alors qu'il descendait la rue Saint-Maur avec entre les mains les lettres à un jeune poète. Mon cher Solal, cher maître à venir, cette émission t'est dédiée. On se retrouve dimanche prochain pour y parler cette fois-ci d'intuition philosophique avec Henri Bergson. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ce sera la question. Dans l'intervalle, retrouvez-nous sur Internet à la page du Gai Savoir où vous attendent téléchargements et bibliographies, ou sur Facebook où vous attendent, d'autres trucs. Enfin, c'est à l'aveugle, une fois de plus, que je vous recommande, si la philosophie vous manque, d'écouter les nouveaux chemins de la connaissance toute la semaine, qui, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, créent la plus inventive et la plus radiophonique des philosophies. Vagabondage, 17h sur France Culture et partout ailleurs d'ailleurs. Dans un instant, à l'IRBI, du côté de chez soi.